Mon sujet d'étude s'est porté sur la communication et le langage en tant que faculté et sur comment concevoir la signification comme un processus dynamique et en s'inspirant notamment d'une métaphore avec deux thématiques de recherche qui sont inspirées d'autres champs disciplinaires que sont la physique, qui sont notamment le paradigme de la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et j'ai voulu me questionner sur comment peut-on concevoir le langage et la pensée dans une telle perspective et traiter de l'acte de signification. Une première approche a d'abord été de considérer l'humain comme un être social et notamment de se questionner sur cette influence de la nature sociale en comparant peut-être l'être humain avec d'autres animaux, notamment avec des animaux tels que l'éléphant ou les oiseaux qui, eux aussi, ont développé des structures sociales et notamment des expressions vocales pour pouvoir communiquer et interagir les uns avec les autres. On peut étudier les courbes de vie de ces animaux, c'est-à-dire le rapport entre la survie de ces animaux par rapport à leur temps de vie maximal. Et en écologie, on divise généralement les courbes de vie en trois catégories, les types 1, les types 2 et les types 3, avec une progression du 3 vers le 1, où la structure sociale progresse et du coup, le soin qu'apportent les parents, notamment à leur progéniture et à l'enseignement de certains codes, permet en fait d'avoir dans ce type 1 peu de progéniture, mais une progéniture qui reste longtemps comparée à un type 3 qui, lui, a une stratégie de survie avec une très nombreuse progéniture et du coup une progéniture qui a tendance à mourir très très vite dans les premiers stades du développement. On peut aussi se questionner du coup sur une faculté psychique très importante qui est l'empathie, et on peut discuter quand on parle de l'empathie de deux fonctions différentes qui sont la compassion, la capacité de ressentir les émotions des autres, et la théorie de l'esprit qui est la capacité à percevoir les états mentaux des autres. Et ces deux facultés sont souvent questionnées notamment sur notre rapport à l'autre et sur notre rapport à comment on peut mieux communiquer et interagir avec l'autre par le biais de ces processus. Une façon simple, certes, mais utile de considérer l'acte de communication et de transmission et en pensant en termes de message et de réponse. Et on peut se demander du coup qu'est-ce que ce message, parce qu'on a deux individus qui se situent de part et d'autre de cette situation de communication et qui sont assimilables à des prismes cognitifs. Tandis qu'on a un espace entre les deux où physiquement on a des ondes ou des phénomènes physiques qui transmettent l'information, mais comment réfléchir la signification dans ces espaces différents et comment concevoir du coup la langue et les concepts qu'elle renferme. On peut aborder le message et la réponse comme en fait des ensembles d'unités de sens, des signaux, et ces signaux pourraient être d'abord pensés comme des unités finies, définies et prédéfinies, c'est-à-dire avec des définitions stables et une réalité qui existe du coup en tout temps. Cette du coup définition, on peut l'aborder avec l'approche saussurienne en termes de signifié et de signifiant qui constitue un signe, et ces signes vont pouvoir du coup parler de sens et de concept et associer à des formes linguistiques ou non. Notamment, ils vont pouvoir nous permettre en fait de parler de différents aspects de la réalité qui sont les mondes physiques et les mondes psychiques. L'être humain est doté du coup d'une sensibilité à la fois vers son monde extérieur mais en même temps vers son monde à l'intérieur, ses états biologiques qui sont fortement liés à sa construction psychique de la réalité. Et du coup, on peut parler du monde physique comme un ensemble d'objets et d'interactions entre ces objets où il existe des phénomènes, et ce monde psychique, de la même façon, est tout un ensemble de sentiments, d'impressions, de concepts abstraits qui sont liés à des états biologiques. Et dans ce monde, du coup, on pourrait référer à différentes choses qui seraient les référents. On référerait à ces référents à l'aide de symboles. Ces symboles nous permettrait en fait de réaliser une représentation mentale sur laquelle on agit et de pouvoir en fait mettre en relation différentes expériences qui sont constitutives de notre représentation des mondes psychiques et physiques. Une approche est notamment l'approche biolinguistique. Et une citation qui me vient d'un cours, c'est la citation de Liédot qui dit que toute perception sensorielle est mémorisée sous la forme d'une trace biologique laissée par l'expérience de nos circuits. Dans ma conception et dans mes interrogations, j'essaye de me questionner pourquoi ne pas considérer l'acte de langage comme du coup l'interaction sur ces traces et du coup quelque chose de dynamique au niveau de ces traces. Et comment on peut penser à cette interaction. Beaucoup d'approches différentes se questionnent sur différents aspects. Ce sont par exemple les théories linguistiques cognitives, mais aussi les théories psychologiques qui ont lié à la pensée, au développement de l'être humain, de l'enfance à l'état adulte. Et de nombreuses questions se posent, notamment au niveau du paradigme cognitiviste. On peut parler en fait d'opérations avec nos symboles. Et du coup, ces opérations sur les symboles pourraient être aussi du coup, ces opérations sur ces traces qui sont dans notre cerveau, qui sont les traces de notre histoire et sur lesquelles on pourrait agir. Et à ce niveau-là, on peut du coup parler déjà de différentes approches, du coup les approches linguistiques, qui ont notamment soulevé un point avec les hypothèses de Sapir-Whorf et l'approche de Jacobson, qui sont que peut-être que la culture et la façon dont nous sommes développés laissent une marque importante sur la façon dont on procéderait à traiter de ces différents symboles et des différentes marques de notre cerveau. C'est notamment que la langue que l'on parle détermine plus ou moins la façon dont l'on conceptualise le monde et que les langues ne diffèrent pas en ce qu'elles peuvent exprimer, mais en ce qu'elles doivent exprimer. Différentes théories, après, comme Kuloly, peuvent aussi être soulevées comme questions d'étude. J'ai voulu, du coup, commencer à m'inspirer, en fait, de différentes théories physiques parce que je travaillais sur les mouvements fictifs et, du coup, sur la notion de mouvement. Et je suis parti, du coup, de certains concepts de la physique classique et j'ai rencontré différents problèmes. Et du coup, qui m'ont amené aussi à différents questionnements. Je me suis inspiré notamment aussi de la théorie de la relativité, qui est elle-même déjà historiquement un peu rapprochée des travaux de Sapir-Whorf et de Jacobson, parce qu'il y aurait une similarité entre la façon dont la courbure de l'espace-temps pourrait être déterminée en fonction de la matière, c'est-à-dire que la matière déformerait cet espace-temps et du coup déformerait la façon dont les objets se déplacent dans cet espace-temps et la façon dont le langage et la signification dans le contexte culturel, historique et social d'un individu pourraient aussi déformer en quelque sorte sa façon de conceptualiser le monde, peut-être un espace sémantique. Les modalités de l'espace qui déformerait sont encore à définir et sont une question compliquée. Mais on peut s'imaginer très bien que cette culture ait aussi ce pouvoir et que du coup, notre esprit tombe en quelque sorte dans certaines conceptualisations. Les facteurs linguistiques du coup, et culturels peuvent modeler la perception de la réalité chez les individus. Et ça implique que le sens n'est pas fixe, que le sens est relatif à l'observateur et que la langue est donc un système dynamique. Une seconde façon d'aborder la dynamicité d'un système et aussi, du coup, la théorie de la mécanique quantique. Il y a une grosse difficulté sur la jonction des deux, c'est que c'est sur la nature même de qu'est-ce que c'est. Puisqu'on part d'une métaphore, il n'est pas évident de comment, qu'est-ce que le système qu'on traite et quelles sont les limitations. Et c'est pour ça qu'il faut prendre avec attention ce qu'on peut dire, parce que notamment la théorie de la mécanique quantique est incompatible avec la théorie de la relativité générale telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Et du coup, ça soulève beaucoup de questions sur qu'est-ce que pourrait apporter de s'inspirer de ces deux travaux. L'utilisation de la mécanique quantique est en fait utile pour l'utilisation en fait de phénomènes qui sont bien particuliers en fait au paradigme mathématique lié à la mécanique quantique, qui est un paradigmatique plus vaste que le paradigme classique Kolmogorovien, qui du coup mène certaines fois à certains paradoxes, notamment dans certaines disciplines comme la psychologie, l'économie, la théorie des décisions, mais aussi sur le langage et la sémantique. L'utilisation notamment de phénomènes de superposition et d'intrication pourrait être fondamentalement très utile pour amener. Moi, je travaille notamment avec les phénomènes de superposition et j'ai développé certaines idées qu'il faudrait explorer encore davantage. Et je pourrais éventuellement expliquer dans les questions cette formule. Voilà. Mais un exemple, peut-être plus parlant, c'est l'exemple des travaux de Aerts et son équipe qui, eux, étudient les concepts et la façon dont les concepts sont combinés. Notamment, il étudie comment des concepts qui relèvent de plusieurs catégories peuvent être abordés. Notamment, quand on parle de typicalité, c'est-à-dire à quel point, par exemple, un coucou est représentatif de la catégorie oiseau comparé au référent chien, et à quel point, par exemple, le coucou peut être représentatif de la disjonction ou la conjonction de ces deux concepts. Notamment, il étudie la conjonction de ces deux, la disjonction de ces deux concepts en étudiant notamment... ici c'est la conjonction. Disjonction. en étudiant les cas où, du coup, est-ce qu'on peut se demander est-ce que un item, un référent du monde, peut être à la fois typique de la catégorie bird ou typique de la catégorie pet. Et est-ce que, du coup, ensuite, on peut déterminer la façon dont il serait typique de la catégorie bird and pet, ou bird or pet. Et du coup, ce que l'on remarque, c'est que les conceptions classiques amènent parfois des résultats qui sont incohérents, notamment avec ce qu'on appelle des surextensions et des sous-extensions. C'est-à-dire que par rapport au résultat de poids de membres, membership weight en anglais, ou par rapport aux notions de typicalité ou d'applicabilité d'une caractéristique, les conjonctions et les disjonctions se retrouvent en réalité mesurées au-dessus ou en dessous des niveaux qui sont acceptables par rapport aux chiffres qui sont donnés pour une de ces catégories. Cet effet-là est souvent référé sur le thème de Guppy effect, le Guppy étant un poisson qui n'est ni typiquement une représentation typique de la catégorie poisson, ni une représentation typique de la catégorie pet, mais un très haut score quand il s'agit de la typicalité de la catégorie fish pet. Et du coup, ce très haut score correspond à une surextension. Et du coup, ces limites qui sont liées du coup à l'approche classique peuvent être notamment répondues selon Aerts par l'approche quantique en considérant des phénomènes d'intrication. Et c'est-à-dire que les concepts fish et les concepts pet ne peuvent plus seulement être considérés comme des concepts, selon Aerts, complètement indépendants l'un de l'autre et comme des entités à part entière, et du coup, se combinerait d'une certaine façon qui serait expliquée par les approches classiques, mais serait du coup une entité à la fois du coup distincte et unique, mais à la fois aussi une entité qui existe ensemble. Quand bird and pet sont associés, c'est une entité qui est distincte de la conjonction entre bird and pet, mais séparée, ou bird or pet, séparée. Et du coup, ça nous apporte à des questions sur la mécanique quantique. Notamment, ça leur permet d'établir des scores et ensuite d'essayer de représenter ça de manière géométrique en utilisant des polytopes où ils vont pouvoir en fait placer à l'intérieur ou à l'extérieur des polytopes, en fonction des scores, des concepts qui du coup auraient plutôt un comportement classique ou un comportement qui du coup serait peut-être quantique ou du moins similaire à un comportement quantique. Et dans ces cas-là, il faudrait définir un peu le paradigme, mais c'est un des enjeux de leurs travaux. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Du coup, je peux expliquer cette partie. Ça, c'est un des travaux que moi j'utilise, notamment qui est lié en fait aux outils mathématiques de, de la mécanique quantique à l'idée de superposition. Et l'idée de superposition réside dans le fait que, de manière populaire, on a tendance à dire que quelque chose peut être à deux endroits en même temps sans être à deux endroits en même temps. C'est cette idée du chat de Schrödinger, même si c'est une mauvaise référence parce que de base c'était pour un peu critiquer cette vue-là. Mais ça a des implications très compliquées parce que notamment ça touche du coup à la question de réalisme. Est-ce que du coup en physique les particules ont des états qui sont déterminés avant la mesure ou est-ce que leur état selon les mots de Karen Darad émerge en fait de l'interaction entre l'appareil de mesure et la particule. Et en linguistique, on peut se questionner en fait sur ce principe-là, notamment pour traiter de la relation au début entre le message et les prismes cognitifs avant, notamment dans la notion de perception et du coup de receveur. Qu'est-ce qui précède ? Est-ce que les concepts sont déterminés avant ou est-ce qu'ils doivent être compris comme déterminés en fonction du prisme cognitif par lequel ils sont assimilés ? Et c'est une question un peu compliquée et qui n'a pas de réponse pour l'instant, mais qui peut être un chemin d'esprit. Et cette formule représente un peu cette idée que du coup, on aurait un état de superposition entre plusieurs sens qui sont liés du coup avec différentes probabilités et que quand on a une observation d'un état, et ben cet état est du coup comme... A interagi sur l'état de superposition et le fait s'effondrer. C'est ce qu'on voit ici. Là, l'état observé interagit avec l'état de superposition et cet état, du coup, est basculé au niveau de chacune des valeurs. Et dans le paradigme de la mécanique quantique, notamment, l'utilisation du delta de Dirac va permettre en fait, de faire effondrer tous les états dans lequel l'indice est différent de l'état observé. Donc les états ici vont s'effondrer et l'état observé va être l'état obtenu ici. C'est quelque chose qui est encore en travail et qui se pose beaucoup de questions. Du coup, une conclusion de ça pourrait être quelle est la nature... Si on admet du coup une certaine dynamicité dans le sens, ça pose énormément de questions, notamment sur comment définir la question d'espace, du coup d'espace sémantique ou d'espace linguistique que ça soulèverait. Quelle est du coup son extension ? Est-ce que c'est quelque chose qui se limite à la langue ou est-ce que c'est quelque chose qui va au-delà jusqu'à la pensée ? Et notamment de beaucoup de questions qui sont liées aux modalités exactes de toutes ces choses-là et notamment aussi sur leur extension à certains concepts tels que certains troubles du langage. Et beaucoup de théories m'ont aidé à réfléchir, notamment les travaux d'Hertz qui sont des physiciens, enfin un groupe de physiciens, de psychologues et d'ingénieurs des intelligences artificielles. Karen Barad, qui est une activiste et physicienne qui a eu un impact en sciences humaines, mais aussi du coup des théories sur la culture comme Boyd et Richardson, Sperber, mais aussi des théories du coup linguistiques et neurolinguistiques pour les linguistiques, les théories de construction qui peuvent aussi se ramener à ce sujet, les théories cognitives et les théories psychologiques et neurolinguistiques, notamment avec les travaux de Agourt sur l'intégration du sens et notamment beaucoup d'autres travaux. Merci.
Merci beaucoup pour ta présentation. Quelqu'un ?
Non, je n'ai pas besoin du micro. Bravo Ludovic. Juste une chose, vous avez parlé de Stanislas Delay.
Oui.
Allez voir ce qu'il a fait, Stanislas Delay.
Oui.
Allez voir ce qu'il a fait depuis le mois de janvier. Donc ses cours de cette année sont sur le site du Collège de France. Et cette année, il travaille sur la vectorialité au niveau de la syntaxe. Il démontre, d'un point de vue géométrique, effectivement, qu'on peut analyser le sens à partir d'un point de vue mathématique et géométrique. Et ce sont vos cônes qui ont fait penser à ça, parce qu'en fait, ils travaillent sur la vectorialité. Et je pense que ça vous intéresserait.
Oui.
Et, voilà, donc vous avez en plus un regard mathématique. Bon, il est neuropsychologue également.
Oui.
Donc ce cours sur la syntaxe, donc en fait il explique qu'il y a une motivation effectivement cérébrale à la syntaxe, à la manière dont les mots s'organisent dans une phrase. Donc comme toujours, il bouleverse tout ce qui se fait en linguistique. Mais je vous conseille, pour les autres si ça vous intéresse, je vous conseille de suivre tous ces cours depuis le mois de janvier. Parce qu'en fait ce sont des séminaires, donc il a fait différents cours, ça va vous intéresser aussi Maxence. Et voilà, et donc vous aurez... peut-être quelque chose qui vous facilitera la cohésion de vos arguments, puisque effectivement tout ce qui touche à la physique quantique, etc., l'espace-temps, voilà, c'est quelque chose qui est très pertinent. Donc, oui. Allez voir ce qu'il a fait, allez voir son séminaire.
Par rapport à ça, du coup, la notion de vectorialité est extrêmement importante parce que c'est sur cette notion de vectorialité que reposent les interprétations, notamment quantiques, et notamment du coup les espaces dans lesquels on repose.
D'autres questions ?
Moi, c'était juste une petite question. Tu connais l'expérience des formes de Jung ?
Oui.
Oui, ok, parce qu'il me semblait vraiment que c'est totalement lié à ce sujet, en fait.
Oui, c'est absolument lié. C'est le point, enfin, c'est un des points de départ, du coup, des théories quantiques qui sont, du coup, liées aux notions d'interférence et de dualité onde-particules. Et du coup, notamment... À la position et au réalisme et au localisme en physique qui, du coup, ont été re-questionnés avec la mécanique quantique. Du coup, dans mon travail de l'année dernière, je m'étais notamment questionné sur ces notions d'interférence. Est-ce qu'on pourrait avoir des notions d'interférence ? Parce que quand on parle d'interférence, on parle d'interférence constructive et d'interférence destructive, qui du coup vont permettre d'avoir, si on, par exemple on parle de la localisation d'une particule dans l'espace, on va pouvoir en fait avoir des endroits où on va avoir des bandes lumineuses et des ondes sombres qui vont lier à des zones constructives et des zones destructives, qui du coup vont dire que là on a une forte probabilité d'avoir une telle particule et là on a une faible probabilité d'avoir de trouver cette particule. La question c'est, est-ce qu'on pourrait aborder le sens aussi en ces termes? Est-ce que notamment, on pourrait parler du sens comme, de base, cette fonction d'onde, et ensuite, à travers le prisme cognitif, quelque chose qui commence à donner d'autres schémas qu'on pourrait observer. Oui.
Et justement, dans cette théorie de l'espace-temps, vous aussi, en tant qu'énonciateur, vous bougez.
Oui.
Et ça, c'est pas pris en compte par les linguistes.
Pas vraiment. Moi, je me suis posé la question parce que, notamment, dans le schéma initial, et... dans ce schéma-là, eh ben, du coup, on a plusieurs milieux et du coup, on a des zones d'interface. Et notamment, l'interface ici, souvent, on se situe à cette interface et on se questionne sur comment le sens, du coup, est acquis de ce côté-là. Mais on se questionne, pas, c'est pas une question qui n'existe pas, mais peut-être qu'il apparaît moins, en tout cas, de comment on passe de cette interface à cette interface.
À quel moment, à l'instant T, parce que en T1, tout le monde aura bougé.
Exactement, en fait, c'est des questions du moment et de comment ces choses-là. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, surtout que rien que le fait d'avoir cette double approche relativité générale et quantique pose des problèmes par rapport notamment à cette question du temps. Parce que c'est absolument traité de manière différente dans les deux paradigmes. Et moi, je n'ai pas de réponse à ce moment-là. C'est une question. Mais notamment, une auteure, Karen Barad, se demande en fait sur la question sur comment nous, en tant que scientifiques, on détermine ces notions et quelle est du coup l'importance en fait de la mesure et de l'acte de mesure sur la détermination des propriétés. Et du coup, quand on interroge cette question à cet endroit-là et à cet endroit-là, cette question est aussi fondamentalement différente parce qu'on on interagit dans des espaces différents. Parce qu'ici, on observe des sens, on se questionne sur l'observation du sens, tandis qu'ici, on se pose sur la question de l'observation de la forme. Et si on reprend la question de l'espace, est-ce qu'on a un espace sémantique ou des formes linguistiques déforment l'espace et nous mène à des sens, ou est-ce qu'on a des sens qui déforment l'espace et qui nous fait tomber dans des formes? Et c'est un peu une question compliquée.
Merci à toi, du coup.